Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'avoir un métier qui ait du sens. Alors avoir du sens, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire avoir un impact sur la société et le monde qui nous entoure, mais aussi un métier qui correspond à nos valeurs, à nos croyances, ou plus simplement un métier qui nous donne envie de nous lever le matin, et c'est déjà bien. Le sens est presque devenu, je trouve, un terme galvaudé, mais il veut bien dire un besoin d'autre chose. Et ceux qui savent bien ce qu'il en est, c'est le milieu associatif, parce que même si les professions qui contribuent de manière positive à la société ne sont pas du tout réservées aux ONG et aux associations, il faut avouer qu'elles regroupent, elles, un certain nombre de ces métiers. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir un métier bien propre au milieu associatif avec Greenpeace France. Salut, je suis Laura et vous écoutez Into the Job. Ici, je pars à la rencontre de métiers qui nous entourent. Ça peut être des métiers rares, des métiers très anciens ou au contraire qui n'ont que quelques années. Mais ça peut aussi être des métiers qui fascinent ou qui interrogent. Bref, au lieu de me baser sur des impressions, je pose les questions aux premiers concernés qui me racontent leur quotidien au travail. Le podcast existe depuis 2019, donc j'ai la chance d'avoir rencontré déjà pas mal de métiers. Et jusqu'ici, je n'avais jamais vraiment donné la parole à un métier d'une ONG ou d'une association, et c'est avec la seconde édition de la semaine du podcaston qui se tient fin mars 2024 que je me suis dit que c'était l'occasion. Me voilà donc partie à la rencontre de François qui travaille chez Greenpeace France en tant que chargé de campagne dédiée aux océans. Chargé de campagne, voilà un drôle de nom de métier qui dit à la fois un peu le sujet et d'un autre côté pas tellement. On imagine toutes et tous que les grandes organisations internationales mènent des combats de plein de manières différentes et sur plein de sujets différents. Et bien c'est le quotidien de François qui dédie ses journées de travail à la protection des océans. La protection des océans, c'est encore une fois très vague, mais promis, François nous en dit beaucoup plus dans l'épisode. Alors, c'est quoi une campagne? Combien de temps ça prend? Comment Greenpeace choisit les problématiques auxquelles elle s'attaque? Et comment est-ce qu'on vit le fait d'avoir un métier aussi engagé dans sa vie perso? Sans plus attendre, je vous laisse avec ma conversation avec François. C'est parti! Salut François!
Salut!
Merci beaucoup de m'accueillir François, aujourd'hui puisqu'on est dans tes bureaux, on est chez Greenpeace France, donc à Paris, et toi tu y travailles depuis une vingtaine d'années et tu es chargé de campagne océan.
Et oui c'est ça, bienvenue en tout cas à Greenpeace.
Merci beaucoup, et alors c'est pas un nom de métier moi que je trouve commun, chargé de campagne océan parce que c'est pas trop mon univers, mais au moins il est chouette parce que ça nous laisse deviner ce que tu fais, tu vois, on comprend a priori, mais comme toujours j'imagine que ça recouvre bien d'autres choses que ce qu'on imagine. Et donc ma première question pour toi François, c'est est-ce que je peux te demander de m'expliquer en quoi ça consiste ton métier de chargé de campagne océan?
C'est vrai que ça parle pas tellement, c'est pas une profession qui existe dans tous les domaines, j'ai l'impression assez spécifique aux ONG, même si on pourrait trouver des choses qui s'en rapprochent en partie dans d'autres, peut-être dans d'autres métiers. Et c'est un peu un mélange de différentes choses. C'est-à-dire chargé de campagne sur un sujet à Greenpeace ou dans d'autres ONG de protection de l'environnement, c'est déjà avoir l'expertise, construire l'expertise sur un sujet, en l'occurrence les océans. C'est aussi le rôle de porte-parole. Sur un sujet, c'est le chargé de campagne qui s'exprime dans les médias ou devant les acteurs politiques, associatifs, professionnels, etc. Et c'est dans le cadre d'une équipe projet, parce que le chargé de campagne ne fait pas tout seul avec ses petits bras, il y a évidemment toute une équipe autour. C'est la responsabilité, la stratégie, disons, politique de la stratégie de la campagne. Après, il y a tout ce qui est communication, tout ce qui est mobilisation qui correspond à d'autres métiers. Donc, c'est un mélange de différentes choses, en fait. Donc, c'est assez multitâche et c'est ça qui est très chouette. C'est une palette de choses différentes qu'on fait.
Et donc, j'imagine qu'il y a autant de chargés de campagne que de sujets.
C'est ça. Il y a à peu près autant. Sur certains sujets, ça dépend de la priorisation et les ressources qu'on met sur les sujets. Donc, ça peut être variable sur les périodes. Mais en moyenne, il y a entre un et deux chargés de campagne par sujet. Parce que des fois, sur un même sujet, sur une même thématique, comme les océans, l'agriculture, l'énergie, etc., il peut y avoir deux projets. Mais généralement, et les très gros projets, il peut y avoir deux chargés de campagne parce qu'il y a beaucoup de boulot et on se partage le travail comme ça.
Donc au total, vous êtes combien à Greenpeace France à être chargé de campagne?
On est une dizaine sur les thématiques. Après, il y a des chargés de campagne transversaux qui ont une expertise en investigation, en juridique, etc. Mais sur les thématiques, on est une dizaine, oui.
Et donc une dizaine sur combien de collaborateurs en France?
Et bien sur l'équivalent temps plein de 150 salariés.
Ouais, donc en fait, pas tellement pour le total de salariés.
Non, c'est vrai que ça peut sembler peu, mais alors ce qui permet de comprendre, c'est que déjà, il y a ce qu'on appelle donc le département programme, dans lequel il y a les chargés de campagne, mais on travaille donc en équipe avec des chargés de communication, des chargés de numérique, toutes les équipes donc du projet, mais il y a une grosse partie des équipes qui sont là pour la collecte de fonds, parce que sans argent, on n'existe pas. Et comme on touche que dans l'argent d'individus, pas d'entreprise, pas de gouvernement, il faut les chercher. Mmh. Il y a une administration, il y a un département ressources humaines, il y a tous les services informatiques, etc. Donc ça fait une grosse machine, oui.
Ouais. Et juste avant qu'on continue, parce que ça fait quand même partie de ton intitulé de poste, qu'est-ce qu'on appelle une campagne, très concrètement?
Alors, une campagne, c'est pas simplement une thématique. Et ça, c'est très important, parce que si on se disait, tiens, on va juste sauver les océans. Ça ne nous emmène pas forcément très loin. Donc la campagne océan, elle va s'appuyer sur une analyse de la situation, qu'est-ce qui est prioritaire, où sont les plus grandes menaces. En fait, on s'intéresse à résoudre les menaces. Donc c'est là où ça va pas mal qu'on va orienter la... Où ça va mal plutôt, pardon. On va orienter la campagne. Et en fait, une campagne, elle a pour but d'être gagnée. C'est pas juste protester, manifester son désaccord. On va pas faire campagne sur un sujet complètement perdu d'avance. Et pour y arriver, et c'est ça qui construit une campagne, il faut construire une stratégie. Il faut réfléchir aux jeux d'acteurs. Il faut réfléchir aux leviers qu'on a. Et ensuite, mettre en place des activités, des publications, des mobilisations, etc. Et c'est tout cet ensemble qu'on peut appeler une campagne.
OK. On y reviendra. Et juste avant, pour terminer vraiment sur ton métier, est-ce que, donc toi, tu es chargé de campagne océan, mais est-ce que tu pourrais aussi te définir comme une sorte de lobbyiste environnemental?
Alors, d'une certaine manière, le terme lobbyiste a souvent en français une connotation négative. C'est le lobby de l'industrie, le lobby de telle
et telle... De la chasse, de la viande, du lait.
Exactement, et qui sont dans ce cas-là plutôt des défenses d'intérêts particuliers face à un pouvoir qui gère l'intérêt collectif. Nous, on parle souvent plutôt de plaidoyer en français pour les ONG et pour les gentils, j'ai envie de dire. Les lobbyistes d'industrie sont souvent perçus comme les méchants, parce que notre plaidoyer est au service du collectif et pas au service d'intérêts particuliers. Après, globalement, à part les moyens financiers, etc., on n'a pas les mêmes moyens de lobbying, nous, Greenpeace, que Total Energy. Bizarrement, les techniques sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il s'agit de convaincre des décideurs politiques, de prendre une décision législative ou un positionnement. Donc d'une certaine manière, si on joue pas sur les mots, oui, il y a une partie de plaidoyer, de lobbying dans notre travail.
Oui, parce que quand tu disais une campagne, l'objectif c'est qu'elle soit réussie. Réussie, ça peut vouloir dire aussi influencer la législation.
Une des manières de réussir une campagne, c'est d'obtenir une décision politique, une loi qui autorise, interdit quelque chose. Ça passe par la loi. On croit de moins en moins à l'engagement volontaire des entreprises. On a été assez échaudés. Donc effectivement, souvent, la victoire pour une campagne, c'est une décision politique. Ouais.
OK, on y reviendra. Donc toi, au quotidien, c'est quoi toutes tes missions si tu devais reprendre une journée? Alors, je sais qu'il n'y a pas trop de journées type, mais qu'est-ce que tu peux être amené à faire dans une journée?
Alors, peut-être qu'on peut le voir peut-être même plus sur une année, mais sans aller dans tous les détails, mais parce qu'il y a des phases différentes.
Okay.
Il y a toute une partie qui est la construction du travail en équipe, donc il y a beaucoup de réunions. On a la réunionite aiguë. Il y a beaucoup de réunions en équipe, il y a beaucoup de réunions de la structure, il y a beaucoup de réunions avec les autres bureaux, puisque comme on est une organisation internationale, on essaie au maximum de mutualiser, de travailler en réseau. Donc l'aspect réunion est très important. Donc il y a toute une partie qui est la construction de la campagne, donc le travail en équipe, avec un responsable de projet, de écrire le projet, d'écrire les objectifs, de faire tout ce travail interne, parce qu'ensuite tout ça doit être validé par une direction. Il y a aussi beaucoup de temps consacré, pour moi, à construire l'expertise, c'est-à-dire suivre l'actualité d'un sujet. Ça peut être la littérature scientifique, ça peut être plutôt des aspects juridiques sur les océans et la haute mer, sujet sur lequel je travaille beaucoup. Il y a un gros enjeu de droit international, de comprendre les sujets, où se place le sujet en actualité, donc c'est de la veille média. Donc il y a tout ce travail plus, on va dire, documentaire et d'expertise. Donc ça, c'est du travail de bureau. Ça peut être également, alors ça dépend des sujets et aussi des personnes, c'est des affinités, un travail de rédaction de rapport. C'est-à-dire, on va prendre un sujet, des fois on va le sous-traiter, mais des fois on va nous-mêmes, en équipe, rédiger un rapport. On avait travaillé récemment, à l'époque où je travaillais plus sur Total, sur le calcul des émissions réelles de Total Energy. Donc là, on est vraiment beaucoup plus dans l'investigation. Il y a des productions de documents, de positionnement, notamment pour les gouvernements, pour les députés.
Si on a qui vous sont demandés ou que vous leur envoyez ?
Les deux. Okay. Ça peut être en réponse à une demande, mais là, par exemple, moi, je travaille sur le sujet de l'exploitation minière des grands fonds. Il y a une réunion internationale là, qui débute dans les jours qui viennent. On a produit des documents de position qui analysent les documents qui vont être discutés et de proactivement, on les a passés aux différents gouvernements et nous ici en France. Après, il y a des réponses à des interviews, soit parce que nous, on a communiqué, on a fait un communiqué de presse, on a fait une activité, donc en réponse à nos communiqués de presse, on va être sollicité. Mais des fois, on est appelé spontanément par des médias sur un certain nombre de sujets. Il y a le travail en inter-asso, en inter-organisation, donc avec d'autres ONG qui travaillent sur le même sujet. Et puis, il peut y avoir, c'est plus ponctuel, mais du travail de terrain. On va l'évoquer, mais d'aller en mer, d'aller sur les expéditions dans d'autres pays, etc. Donc c'est très varié. C'est pour ça que je disais, sur une journée, c'est un peu dur de faire rentrer tout ça.
Ouais.
Sur une séquence plus longue, on voit qu'il y a une variété. Et c'est ça que moi, je trouve aussi assez génial dans ce métier. C'est cette variété, on ne s'ennuie pas.
Bah oui, j'imagine. Bah, on va parler justement si on prend une campagne du début à la fin, vraiment en allant dans le détail de chacune des étapes, comment ça se passe ? Comment est-ce que tu décides de l'angle, du sujet de ta campagne ? Comment ça se passe ?
Alors la décision, d'abord toutes les campagnes, globalement à part quelques exceptions d'une opportunité, d'une urgence environnementale, d'une situation qui s'imposerait à nous d'une certaine manière en dehors de tout contexte, c'est dans le cadre de réflexions qu'on se fait avec nos collègues au niveau international. Par exemple, sur les océans, on va se dire que la priorité pour les 3 ans à venir, on est souvent sur des séquences comme ça, ça va être de mettre en place politiquement des réseaux d'aires marines protégées ou d'empêcher l'exploitation minière. Je prends ces exemples parce que c'est le cas. Donc on a un cadre qui oriente la décision d'une campagne. Après, je vais prendre l'exemple de la campagne sur l'extraction minière qui est assez récente et comment on l'a abordée en France. Donc nous, on travaillait déjà globalement sur les océans, sur l'idée qu'il faut protéger la haute mer, qu'il faut introduire un cadre juridique dans un espace qui appartient à la fois à tout le monde et à personne, qui est au-delà des souverainetés nationales, qui est très peu régulé et où il y a très peu d'éléments de protection. Et puis, on a appris, c'était donc il y a un peu plus de 2 ans et demi, par un discours d'Emmanuel Macron, ça s'appelait le plan de relance 2030, que la France souhaitait aller exploiter des minerais dans les grandes profondeurs au nom de la nécessité d'indépendance en matières premières, d'aller chercher du lithium, du nickel, du cobalt. Quand on a appris ça, on s'est évidemment posé la question de qu'est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait réagir ou pas, sachant que c'est potentiellement une catastrophe environnementale gravissime d'aller détruire les fonds marins, ça serait une véritable destruction. Et donc ça nous semblait évident qu'il fallait réorienter le travail de la campagne océan dans cette direction-là. Et donc c'est à partir de là, finalement, a été lancée l'idée de pleinement lancer une campagne sur l'exploitation minière. D'autres pays le faisaient, nous on ne le faisait pas en France, donc on a rejoint une équipe. Une fois qu'on a dit qu'on va travailler sur un sujet, la question c'est qu'est-ce qu'on veut atteindre ? Nous, on ne veut pas d'exploitation minière, jamais. Mais c'est un peu léger comme cheminement. Donc, on s'est dit, il faut passer par le système des Nations Unies, par une autorité des Nations Unies qui est en charge de ça, et demander un moratoire. Donc, on commence à se dire, voilà, on voit à peu près où on veut aller, comment on fait. Pour avoir ce moratoire, il faut bouger et obtenir l'adhésion d'un certain nombre de pays. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en France pour convaincre Emmanuel Macron et le gouvernement de changer de position ? Alors en France, c'est assez simple. Toutes les décisions sont prises à l'Élysée par Macron. Donc l'idée d'aller voir les députés, etc., c'était pas la priorité. C'était il fallait faire bouger la position d'Emmanuel Macron. Donc à partir de là, on a conclu qu'il fallait avant tout mettre l'accent sur une campagne politique. On n'a pas d'acteur de marché. Il ne s'agissait pas d'aller cibler une entreprise qui était le vilain. Là, c'était faire bouger le politique. Dans d'autres campagnes, quand on travaille sur Total Energy, il n'y a pas tellement d'enjeux de décision politique. Pendant longtemps, ça a été ça. C'était vraiment l'entreprise qui était la cible. Donc, deuxième étape, une fois qu'on sait ce qu'on va atteindre, c'est trouver la cible. Pour faire bouger cette cible, quelle est l'audience ? Qui est-ce qui va faire que, au-delà de la voix Greenpeace, le sujet qu'on va porter va résonner ? Donc là, par exemple, sur la question des grands fonds marins, il y a une unanimité de la communauté scientifique, de la communauté des ONG, très largement, et notamment de la science, pour dire c'est une aberration et c'est une menace grave. Donc s'appuyer sur ça, créer une mobilisation collective. Et puis, ça ne suffit pas forcément, donc l'idée, ça a été de créer de la mobilisation du grand public. Lancer une pétition qui a extrêmement bien marché et montrer donc qu'il y a une véritable adhésion pour faire évoluer la position française. Donc là, on en est déjà à construire finalement des stratégies. Et après, dernière étape, dernière couche, c'est les tactiques, c'est-à-dire comment c'est bien de mobiliser, mais comment on fait, comme on l'évoquait, ça peut être une journée, tous les militants de tous les groupes locaux bénévoles vont organiser des stands, vont passer de la documentation, vont faire de la sensibilisation. Dans ce sujet-là, c'est la sensibilisation qui prime. En même temps, on va faire un communiqué de presse ou on va faire une tribune en interasso. Donc là, on est dans les tactiques, on en est vraiment à construire des outils. Il y a des négociations internationales. En l'occurrence, ça se passe en Jamaïque, à Kingston. On va envoyer une délégation. Et donc là, on a construit les différentes tactiques. Mm-hmm. Et après, la dernière étape, c'est quelle temporalité. Quand on a commencé la campagne, donc c'était à l'automne 2022, avoir un moratoire, oui, mais dans quelle temporalité ? Ça ne sera pas du jour au lendemain. Eh ben, on s'est dit que globalement, si on avance bien, on pourrait d'ici le 2025 arriver à cet objectif. Quand on a commencé la campagne, aucun pays ne soutenait le moratoire. D'accord. Aujourd'hui, il y en a 24, dont la France. Il nous en faut à peu près une cinquantaine. Donc on peut voir à peu près si on est dans les clous. Et après, la dernière phase d'une campagne, une fois que c'est gagné, ou perdu, mais on espère plutôt les gagner, c'est tout le travail d'évaluation, de débriefing et de voir ce qui peut être amélioré, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché.
Gagner, ça semble plutôt évident sur le résultat. Perdu, c'est quand vous vous êtes fixé une année ou une date plus ou moins précise et que vous voyez que ça n'avance pas, vous décidez qu'à un moment qu'elle est perdue.
Oui, c'est aussi souvent quand on se trompe d'objectif par rapport à la temporalité. Notre vision, c'est la sortie du nucléaire, par exemple. Pour les énergies. Mais si on se dit on va sortir du nucléaire dans 2 ans, c'est pas gagné. Ça sera pas gagné. Ouais. Ça sera perdu. Donc c'est peut-être souvent quand on s'est perdu, c'est que la définition d'objectif était peut-être mal faite. Et puis après, c'est parce qu'il y a, je sais pas, un changement de gouvernement, parce qu'il y a un changement de réalité politique, parce que l'actualité se déplace ailleurs, ou parce que l'industrie a pris la main et que la décision et l'arbitrage a été négatif, quoi.
Ok, donc là, c'était en octobre 2022, ça finirait a priori en 2025. On est à peu près sur 3 ans, 4 ans de campagne, c'est ça à chaque fois ?
Ou
ça
dépend ? C'est des temporalités assez courantes, effectivement. Il peut y avoir des campagnes gagnées très rapidement, mais c'est vraiment rare. C'est souvent des choses assez opportunistes, mais ça peut être
pertinent. T'as des exemples ?
C'est une campagne qui a été assez courte finalement, puisque je réfléchis, oui, ça a été à peu près en 2 ans, c'est assez court. Il y avait un projet de forage de Total au Brésil, au large de l'embouchure de l'Amazon. Donc on a commencé à se mobiliser avec nos collègues brésiliens, que je ne dis pas de bêtises, tout début 2017, avec une première expédition en mer pour montrer la menace, en travaillant à la fois donc, du côté politique au Brésil et du côté de mettre la pression sur l'entreprise en France. Donc, on se partageait un peu les rôles. Et en décembre 2018, l'autorité environnementale brésilienne a annulé les projets de forage.
Ok.
Ce qui est rapide. Hein.
Ouais, j'imagine. Donc, est-ce que ça veut dire que tu travailles toujours sur une campagne en même temps ou est-ce que tu peux travailler sur plusieurs campagnes en même temps ?
Alors, globalement, les chargés de campagne vont travailler sur une seule campagne. Il peut y avoir des cas où on est à cheval sur plusieurs sujets ou sur plusieurs projets du même sujet. Mais là, je chipote, mais ça fait quand même travailler sur plusieurs sujets. Moi, par exemple, je travaille un peu sur trois sujets en vrai. Je travaille sur la campagne Océan au sens large pour Greenpeace France, une partie de mon temps. Je travaille une autre partie de mon temps vraiment spécifiquement sur le travail international sur l'extraction minière des grands fonds pour Greenpeace International. Et puis, j'ai un petit bout de mon temps qui est consacré à une alliance qu'on a constituée il y a quelques années, c'était à l'époque du Covid, qui s'appelle l'Alliance écologique et sociale, où on essaie de rapprocher les travaux, les ONG de protection de l'environnement et les syndicats de salariés, et essayer de montrer la convergence des enjeux sociaux et environnementaux. Donc ça ne correspond pas à un travail de thématique, mais ça correspond très clairement au même métier de chargé de campagne. Vraiment, j'aime bien être sur plusieurs sujets. D'autres chargés de campagne préfèrent être focus sur un seul, c'est après, je pense que c'est vraiment en fonction des personnes, quoi.
Oui, puis là, on pouvait le deviner à t'écouter, mais on ne l'a pas dit clairement. Là, tu es chargée de campagne océan. Il y a quelques années, tu étais chargée de campagne océan et nucléaire. C'est pour ça que tu nous parlais notamment de Total.
Là, et pétrole,
de,
oui.
Pétrole, pas nucléaire, c'est ça ?
Oui, parce que c'est intéressant, c'est parce qu'on avait C'est le sujet que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on s'est mobilisé contre un projet de Total au large de l'embouchure de l'Amazone, dans des forages offshore, dans des zones où il y avait des récifs coralliens et une biodiversité quasiment inconnue et clairement menacée. Donc l'angle de la campagne, ça a été la menace sur la biodiversité pour faire annuler le projet. Le risque de marée noire, le danger sur l'écosystème autour. Sachant que fondamentalement, notre objectif concernant les énergies fossiles, les entreprises comme Total, c'est la sortie du pétrole. Mais là, on illustrait par la menace sur les tortues, sur les baleines, etc. Sachant que le véritable objectif à long terme concernant Total, c'est qu'ils arrêtent d'exploiter du pétrole.
Ouais. Et pour finir aussi sur cette question de temporalité, de nombre de campagnes, donc vous êtes sur une campagne en même temps, mais Greenpeace France est sur combien de campagnes au total
Alors,
en même temps?
Alors on travaille donc en ce moment en même temps, donc avec des chargés de campagne qui sont dédiés, des équipes projet, donc sur les océans, ça on vient d'en parler. Sur l'énergie, on travaille à la fois sur la question du nucléaire et sur la question de la transition et du développement des énergies renouvelables. C'est un peu les deux faces d'un même sujet, mais c'est des acteurs et c'est des problématiques différentes, donc ça fait sens de séparer. On l'a évoqué, on travaille sur le pétrole avec un focus sur Total, avec l'objectif de sortie des énergies fossiles. Et on travaille sur... Alors c'est une équipe qui travaille à la fois sur agriculture et forêt, parce que notamment un des vecteurs de la déforestation, c'est par exemple le soja pour l'agriculture. Donc ils travaillent sur plusieurs enjeux, mais c'est une équipe globalement biodiversité, forêt et agriculture.
Ok. Et pour revenir aussi sur les campagnes, l'objectif d'une campagne, on est d'accord que faire une campagne, ça ne peut pas être, en tout cas dans le vocabulaire que vous utilisez, ça ne peut pas être juste, avec des gros guillemets, l'organisation d'une pétition. Ça, ce n'est pas une campagne.
L'organisation d'une pétition, ça va être une tactique.
Ok.
Après, il peut y avoir des mini-campagnes. Alors ça c'est souvent, notamment, ça peut être délocalisé, délégué au niveau local. On peut avoir une campagne dont l'outil principal est une pétition. J'essaie d'en trouver, j'en ai pas une qui me vient en tête, mais un projet local. Les militants se sont mobilisés avec le soutien du siège et ont lancé une pétition, je ne sais pas moi, contre la construction d'une ferme usine dans telle région. Donc c'est beaucoup plus petit en périmètre et en demande et en objectif et en temporalité. Et donc finalement, dans ce cas-là, l'outil unique de la campagne, c'est la pétition. Mais c'est pas pour autant que la campagne... Voilà, c'est dans ce cas-là, on a réduit le nombre d'outils dans la palette plutôt.
Mais toi, tu n'interviens pas du tout là-dessus?
Non, beaucoup moins dans ce cas-là.
Okay.
Bon, là on intervient, c'est pour être sûr que la demande est politiquement cohérente avec ce qu'on dit par ailleurs.
Ok. Et la particularité de Greenpeace, c'est que... Tu l'évoquais rapidement tout à l'heure, que vous disposez de 3 bateaux, dont je pense que c'est le plus célèbre, le Rainbow Warrior 3. Vous avez vos bureaux en France, partout dans le monde. Et toi, qui es chargée de campagne océan, c'est vrai que je voudrais savoir à quel point le fait de disposer de ces bateaux, ça a un impact sur ton travail. Comment tu les intègres dans ton travail? Comment tu t'appuies sur eux?
Pour la campagne océan, c'est clé. Et plus généralement, les gens qui travaillent pour la campagne océan adorent utiliser les bateaux, partir en mer, ça va bien ensemble. Et puis, c'est vraiment consubstantiel de l'identité même de Greenpeace. La première campagne de Greenpeace en 1971, c'était d'envoyer un bateau pour s'opposer à un test de bombe nucléaire américaine en Alaska. Donc, l'histoire de Greenpeace repose sur ces grandes campagnes iconiques. On connaît évidemment les images des zodiacs et des activistes qui s'interposent entre le harpon et les chasseurs de baleines. Donc on est vraiment dans au cœur de l'image, de l'ADN, d'une certaine manière, de l'organisation. Nos bateaux incarnent un des fondements aussi de Greenpeace, c'est d'être sur le terrain de la menace environnementale, pas de la dénoncer uniquement depuis nos bureaux, et de s'interposer physiquement par de la désobéissance civile, quitte à mener des actions illégales, mais non violentes, à la menace. Et les campagnes en mer et les navires, moi, je trouve, incarnent parfaitement ça. Alors, il ne s'agit pas de réduire les autres campagnes, mais je trouve que c'est vraiment... Voilà. Donc oui, on les utilise régulièrement et on essaie de se partager les disponibilités des navires en fonction des pays, de mutualiser ça. Ça va du travail scientifique jusqu'à la confrontation non violente, en fait. C'est très, très large comme type d'activité.
Donc toi, est-ce que ça veut dire que tu peux les solliciter sur des analyses et des données scientifiques, ou c'est plutôt eux qui te remontent naturellement leur travail qui mène de leur côté?
Alors en fait, les navires donc, qui sont organisés, enfin qui sont coordonnés par Greenpeace International Et les équipages, donc les marins, mécanos, officiers, sont des salariés Greenpeace, mais ce sont des marins, donc ils n'ont aucune expertise sur aucune campagne. Donc nous, d'accord, quand on veut bosser sur un sujet, on envoie une équipe de la campagne pour mener le projet avec des partenaires, avec des scientifiques, etc. On construit le projet, il doit être validé par l'international en fonction de la disponibilité des bateaux, des itinéraires, du lieu où on voudrait aller... Et du temps et du budget, etc. Mais c'est la campagne qui prend en charge l'expédition dans ce cas-là.
Ok. Et donc là, il y a une durée. Ils sont sur le bateau pendant une certaine durée.
Les membres d'équipage, ils font des rotations de 3 mois. Ils restent 3 mois en mer. Ensuite, ils sont 3 mois off. Mm-hmm. Sur l'équipe projet, ça peut aller de quelques jours. On va, faire une action pour dénoncer l'arrivée d'une plateforme pétrolière, par exemple en mer du Nord, je prends cet exemple parce que c'est une action qu'on a fait il y a quelques temps. Donc c'est le temps de l'action, ça peut être quelques jours. Après, mm-hmm, il y a tout le temps de préparation, de repérer la cible, etc. Mais ça peut être que quelques jours. Quand on allait sur la chasse baleinière dans l'Antarctique, vu la distance, on est plutôt sur des campagnes de 2-3 mois, donc des choses assez longues. Sur une expédition scientifique, vu les moyens déplacés, etc., on est plutôt sur des formats de 4 semaines en gros.
Ok, donc ça varie quand même pas mal. Et toi, tu t'y rends ou pas parfois ?
Oui, moi je suis allé maintenant une dizaine de fois sur les bateaux, dans différentes régions et sur différents projets. La dernière fois, c'était le projet que j'évoquais là, au large du Brésil et de la Guyane pour une mission scientifique. C'était assez quelque chose d'assez inédit. On était parti, on avait organisé un partenariat très formel avec le CNRS, par exemple.
Bah, en fait, ce qui m'a un peu marqué par rapport à ton métier, c'est que, bon, toi, ça fait un moment que tu es là, mais 20 ans, cette année, tu me disais.
C'est ça.
C'est un métier d'expertise. Tu te documentes beaucoup, ça fait partie de ton travail de suivre l'actualité et de faire de la veille. Et donc, forcément, au fur et à mesure des années, tu accumules ces connaissances. Comment est-ce qu'au quotidien, tu arrives justement à te documenter ou à te former ? Je ne sais pas quel est le bon terme. Est-ce que c'est... j'imagine que tu ne suis pas que les données, les travaux de Greenpeace. Tu suis aussi beaucoup de contenu de partenaires ou de médias. Je ne sais pas comment est-ce que tu t'organises.
Alors, déjà, nous, on, toutes nos campagnes reposent sur le travail de scientifiques, c'est-à-dire sur la question du climat, de la biodiversité. On s'appuie sur ce que disent les scientifiques, donc c'est sur les publications scientifiques. Quand on parle, par exemple, pour l'extraction minière des grands fonds, qui est aujourd'hui une menace potentielle, du risque sur la biodiversité, c'est pas nous qui l'avons identifié tout seul ou qui l'avons extrapolé ou imaginé, c'est parce que des dizaines d'articles scientifiques vont dans ce sens-là. Donc la première chose, c'est s'appuyer sur la compétence scientifique. On n'est pas même scientifique, on va peut-être être plutôt, d'une certaine manière, la caisse de résonance de messages scientifiques qu'ils ont et la transformation du message très technique en un message audible par un politique ou par n'importe qui au quotidien. C'est déjà un gros boulot. On va s'appuyer aussi de la même manière, quand je dis scientifique, là j'évoquais plutôt des sciences dures, biologie, etc. Mais c'est aussi les sciences humaines, c'est aussi beaucoup... Le droit, la question juridique qui concerne les océans est très complexe, donc il y a besoin d'aller voir un peu que dit le droit international, par exemple. Donc c'est s'appuyer sur ce type de corpus, et après, c'est suivre les publications spécialisées qu'il peut y avoir sur ces sujets-là, et globalement la presse. Alors on apprend, on a soutien aussi des gens de la communication pour nous aider à faire de la veille média, parce qu'on ne peut pas tout lire surtout, évidemment, sinon on ferait que ça, et encore, ça ne suffirait même pas. Mais il y a un peu ces différents niveaux, ouais, entre publication scientifique, publication spécialisée et la présence du sujet dans les médias plus généralistes.
Et ces scientifiques sur lesquels vous vous appuyez, ce n'est pas des scientifiques de Greenpeace, on est d'accord, c'est des scientifiques externes ?
Oui, et en particulier des publications scientifiques avec comité de lecture, publiées dans des revues, parce qu'on l'a bien vu ces dernières années avec tout un débat qui impliquait la science, comme quoi, enfin, on peut très vite se retrouver à dire tout et n'importe quoi. Et donc, il faut s'appuyer sur de la vraie science. La vraie science, c'est des articles publiés, c'est des articles faits dans un cadre revu par des pairs. C'est pas une page Facebook ou quelqu'un qui dit ici ou ça, quoi. C'est une publication scientifique.
Ouais. Vous avez un comité, vous, ou pas, chez Greenpeace ?
Pas dans ce sens-là, puisque nous-mêmes, on ne produit pas de science. Alors, à une toute petite nuance, c'est-à-dire qu'on a au Royaume-Uni, l'équipe internationale a un département qui s'appelle la Science Unit, l'unité scientifique, qui est hébergée dans l'université d'Exeter. Donc, c'est un labo Greenpeace dans l'université d'Exeter, qui publie un certain nombre de papiers. Ils ont publié récemment un article l'année dernière sur l'impact que pourrait avoir, je reste sur mon sujet, hein, l'exploitation minière sur les baleines. Donc là, il y a un vrai travail c'est des scientifiques qui font des publis. Et le rôle en interne, c'est beaucoup de nous guider sur les méthodos, quand il s'agit par exemple d'aller prendre des échantillons, des choses comme ça, ou sur les grandes orientations des campagnes par rapport aux connaissances scientifiques du moment, quoi.
Ok. Oui, parce que tu parlais tout à l'heure des contenus aussi que tu pouvais produire. Et on est d'accord que tu peux produire des contenus à la fois pour du grand public ou en tout cas une masse de population que tu ne vas pas forcément connaître et du politique. Mais j'imagine que tu fais les deux.
C'est des formats assez différents, et dans la forme et
Oui.
dans le fond. Quand c'est des rapports ou vraiment des notes techniques, c'est plus le rôle des chargés de campagne de rédiger. Et après, il y a une relecture, correction, etc., etc. Quand c'est des documents plus publics, brochures ou
Livre
tribunes,
blanc.
etc., on va plutôt donner le contenu, les éléments, et c'est plutôt la com qui va faire le travail de rédaction.
Ok,
Par
très
exemple, la
clair.
communiqué de presse, c'est les chargés de
Oui,
communication qui le
oui,
rédigent. Voilà.
oui. Je l'évoquais rapidement tout à l'heure, tu es à ce poste depuis 20 ans. Qu'est-ce que tu as vu évoluer dans ton métier, en gros, depuis le début des années 2000 et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé, par exemple?
C'est une bonne question. C'est difficile d'avoir le recul, mais je vais tenter. Je pense que ce qui a beaucoup changé dans mon métier par rapport au monde extérieur, c'est qu'aujourd'hui, Greenpeace était, il y a une vingtaine d'années, beaucoup moins reconnu pour une expertise, pour une capacité, justement. On était connus comme des militants capables de faire des actions, comme on l'évoquait, d'aller grimper dans une grue, bloquer un train, monter, aller à fond avec un zodiaque devant un bateau de chasse baleinière. On était moins connus pour l'expertise politique, on était moins reconnus. On était plus considéré aussi comme étant en gros une organisation un peu extrémiste, hippie. Mais bon, en France, il y a tout le passif de l'attentat contre le Rainbow Warrior qui a quand même, dans les années 80, hein, ça date, mais qui a quand même beaucoup pesé dans les relations qu'on pouvait avoir en France. La situation Greenpeace en France, elle est quand même historiquement particulière par rapport à ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus facilement accès aux médias. Même si on pourrait imaginer plus, on a plus facilement aussi une reconnaissance devant les politiques. Ça ne veut pas dire qu'on obtient pour autant peut-être plus de décisions favorables, c'est pas tellement là, mais dans le paysage politique, on a gagné une certaine peut-être reconnaissance institutionnelle, mais aussi parce que les sujets environnementaux, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, le changement climatique, la perte de la biodiversité, c'était loin. Aujourd'hui, il n'y a pas. La question environnementale, elle est partout présente. Ça ne veut pas dire qu'elle est malheureusement bien
Ouais.
traitée, mais en tout cas, elle est présente. Donc ça aussi, du coup, des organisations comme Greenpeace sont aussi plus présentes. Et ça, c'est un vrai changement. Et puis, c'est aussi une professionnalisation, c'est-à-dire qui peut en partie donner l'impression d'une bureaucratisation, effectivement, mais aussi beaucoup plus de moyens. Et ça, c'est vraiment, ça change la capacité à travailler. Quand on était une organisation, quand je suis arrivé, on était une quarantaine de salariés. Aujourd'hui, on est plus de 150. On est un bureau important qui pèse, donc on peut se donner le moyen de campagne ambitieuse. On est moins dans le bricolage.
Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas changé depuis les années 2000?
Ouais, moi je dirais, alors par rapport à mon expérience personnelle, le côté, on fait plein de choses différentes, comme on l'a évoqué dans le métier, cette variété de choses, elle a pas tellement changé finalement, y compris même. S'il y a de plus en plus de spécialisation des métiers, etc., finalement, le métier de chargé de campagne n'a pas beaucoup changé. Et puis, le côté, même si on est devenu peut-être un peu plus institutionnel, un peu plus visible, on reste quand même, je pense, impertinent. On est là aussi pour être un grain de sable dans la machine. Et puis, dernière chose, nos valeurs fondamentales, elles n'ont pas changé. C'est-à-dire que la confrontation, non, mais la non-violence, l'indépendance vis-à-vis des partis politiques et surtout l'indépendance financière vis-à-vis des pouvoirs économiques et politiques, justement, ça n'a pas bougé, quoi.
Ouais. On s'en doute en t'écoutant et que tu as un métier qui a la particularité de t'engager professionnellement, c'est sûr, mais aussi personnellement, bah déjà parce que pour faire ton métier, t'as forcément toi-même, et c'est le cas, j'imagine, de tous les chargés de campagne, des valeurs, des croyances que tu vas défendre au quotidien. Mais que j'imagine, tu fais partie de ces personnes qui ont un métier où le soir, quand tu rentres chez toi, bah, tu ne vas pas te débrancher complètement et te dire « Allez, c'est fini, ça s'arrête et je... » Enfin, comment est-ce que tu... Voilà, tu travailles sur des sujets, tu le disais, qui ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, qui sont presque infinis, qui peuvent être assez vertigineux même. Comment est-ce que tu gères ça au quotidien dans ton métier ?
Bah, c'est vrai que c'est difficile de s'en détacher complètement. Et déjà, des fois, ça prend aussi sur la vie quotidienne. Tout simplement, bon, on évoquait les missions en mer. Quand on a une vie de famille et qu'on part des fois 4, 5, 6 semaines en mer, voilà, ça a un impact sur la vie familiale, dans tous les sens du terme. Donc, ça, le métier déborde un peu dans la vie au-delà des horaires de boulot, quoi.
Ouais.
Ça joue, évidemment. Alors, moi, je ne milite pas sur les questions environnementales, en plus de mon boulot. Je considère que le métier que je fais, mon engagement personnel pour la lutte environnementale, pour Greenpeace, il est dans ce cadre-là. Et le reste du temps, c'est ma vie privée. Mais je pense que... Bon, il n'y a pas vraiment pour moi Je pense que ce qui est important, c'est d'être capable justement de dire, ben là, je suis en vacances. C'est pas facile, hein. Je ne regarde pas mes mails. Je ne réponds pas à l'appel d'un journaliste parce qu'il y a une urgence. C'est rarement possible, mais quand même, c'est une règle. Et puis, passer du temps avec ses proches, ses amis, à parler d'autres choses, etc. Parler d'autres choses que le boulot stricto sensu, c'est assez facile. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, parler d'autres choses que la catastrophe environnementale, climatique, les tensions sur une situation politique qui se raidit, sur une répression du mouvement social de plus en plus forte, et bah en gros une crise climatique et une montée des fascistes, c'est différent, on peut pas s'en détacher, mais c'est pas mon métier, c'est le monde.
Ouais. Justement, très bonne transition. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, donc tu ne le connais pas, tu ne la connais pas, on te demande ton métier. Alors déjà, qu'est-ce que tu réponds? Quel mot tu utilises pour définir ton métier? Est-ce que tu dis chargé de campagne océan?
Je pense que la première chose que je vais dire, c'est que je travaille pour Greenpeace sur les océans.
Ok.
Après, il peut y avoir une discussion. Ah, c'est quoi? Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est etc. Il y a des gens aussi encore, ça dépend où, mais il y a aussi des gens qui savent pas du tout ce qu'est Greenpeace. Déjà, ça peut être les premières choses à expliquer, ouais. Ou qu'on a une image complètement biaisée, ou très négative, ça peut arriver évidemment, ou très positive mais complètement biaisée. Donc finalement, le premier point d'entrée, c'est l'ONG elle-même avant d'avoir discussion sur le sujet.
Ouais. Et est-ce que c'est après, quand on te demande plus de précisions sur ton métier, ça va, tu arrives facilement du coup à décrire ce que tu fais?
Je dirais oui, même si ça se fait pas, bah, c'est plus compliqué de que dire je suis médecin, je suis prof.
Ça, je confirme. Donc,
voilà, c'est quelque chose. Ah oui, je sais ce que c'est. Là, c'est quoi ton truc? C'est très compliqué, c'est bizarre. Il y a plein de choses, bah, comme on l'a dit, il y a toute une palette de choses. Donc ça prend bah, le temps là qu'on a pris pour expliquer ce que c'est. Il y a des gens qui le comprennent de manière plus intuitive, notamment des gens qui sont dans le milieu des ONG, dans le milieu social, on comprend assez vite. Des gens qui sont dans des préoccupations très différentes, ça demande un peu plus de temps. Il faut essayer de trouver des analogies, des fois.
Ouais, t'en as une en tête que tu utilises parfois ?
Bah, ça dépend des aspects. Bah, par exemple, tout le travail d'investigation, de rédaction de rapports, etc., ça pourrait, par certains côtés, plus s'apparenter à ce que peuvent faire des journalistes d'investigation. Une partie du fait de mener des campagnes, des luttes, etc., un militant syndicaliste, il pourra le comprendre. On est là dans de la lutte sociale, du rapport de force, etc. Donc, ça dépend un peu de l'interlocuteur et puis du niveau de discussion. En fait, il n'y a pas une manière de dire, en résumant, en trois mots, c'est ça et ça. Ça dépend vraiment de qui on parle et de l'intérêt de la personne.
Oui, bien sûr. Et c'est quoi les réactions généralement en face?
Alors, il y a de moins en moins des réactions bizarres, complètement de rejet ou d'hostilité très forte. Ça peut exister dans certains milieux. On a, par exemple, des relations assez tendues avec une certaine partie du secteur de la pêche industrielle. Donc là, ça peut donner des réactions hostiles. En fait, ça dépend aussi des orientations politiques. C'est marrant, c'est... Vous n'aurez pas la même réaction de quelqu'un qui est de sensibilité écolo que de quelqu'un qui est d'extrême droite.
Ça, oui, est-ce que rien qu'en parlant de ton métier, tu peux définir l'orientation politique de la personne avec qui tu parles?
Ça peut marcher, effectivement. pas forcément en termes de pour qui il vote en termes de parti, mais le côté, enfin, oui, effectivement, comme l'écologie suscite beaucoup de clichés, voilà, c'est pas des gens dans des milieux plus rural, on dirait, ah, les écolos, bobos, parisiens, anti-chasse, qui veulent nous apprendre la vie. On voit à peu près où se situe la personne, pour prendre un exemple. Okay. Ou génial, vous êtes l'avant-garde de l'activisme. On voit aussi, oh, je suis trop génial, j'ai envie moi aussi de faire des actions. Bon, bah, on voit très bien quand la personne se situe. Donc oui, ça peut être un bon moyen de tester qui est l'interlocuteur, en tout cas politiquement. C'est vrai, je n'avais pas pensé comme ça.
Vous allez sortir un baromètre.
C'est ça.
Et est-ce que justement, tu n'as pas l'impression des fois... Bah, tu vois, t'es pas au boulot, je sais pas, t'es en soirée, tu rencontres des personnes pour la première fois, tu te dis ton métier, est-ce que t'as pas l'impression que ça va vite rentrer dans un débat d'opinion? Parce que justement, en fait, ça peut être difficile de rester neutre. Toi, un médecin, on va lui dire, ah ok, toi, on va pas lui dire genre, oh punaise, encore un médecin de je sais pas quoi. Donc, est-ce que t'as l'impression que parfois ça suscite un peu des débats d'opinion et qu'est-ce que t'en penses?
Bah, alors soit la personne ne s'intéresse pas tant ça, ou la conversation continue sur autre chose, ah, toi tu fais quoi, et bon. Mais si elle enclenche là-dessus, effectivement, soit de manière assez simple, soutien, ou on lui dira ah, c'est super, et d'essayer d'avoir plus d'infos, donc ça c'est le côté. Ou le débat d'opinion, en fait, il s'enclenche plus fortement quand il y a des accords. Mm. Ah oui, tu seras sur Greenpeace, mais vous dites n'importe quoi sur le nucléaire, on ne pourra pas s'en passer, etc. Et le débat peut s'enclencher sur des thématiques sur lesquelles je n'ai pas forcément spécialement, enfin, je vois à peu près où on se positionne, mais je n'aurais pas forcément une expertise. Mm-hmm. Ou, oui, c'était quand les opinions sont défavorables, ça peut... ah mais Greenpeace, vous êtes des obscurantistes, vous êtes contre la science. Enfin, quand les gens développent les clichés, effectivement, c'est plus du... Ça peut vite virer à ça. Ce qui peut des fois être rigolo pour bavarder. Alors, des fois, on peut avoir envie de faire autre chose en
soirée
aussi.
Oui, parce que j'imagine que ça dépend de ton humeur. Est-ce que tu as l'énergie de...
de l'envie, de l'humeur, de la sympathie, de l'agressivité ou de l'antipathie de la personne. Il faut qu'il y ait un dialogue qui soit constructif. Si c'est juste pour se faire hurler dessus, se faire insulter, c'est pas très... C'est rare. Hein. J'ai même pas envie d'avoir un débat.
Parce que j'allais te poser la question de s'il y avait des clichés sur ton métier, mais de ce que j'entends, il y a surtout des clichés sur Greenpeace, en fait, plus que sur ton métier.
Oui, j'ai l'impression que globalement, c'est qui est l'organisation, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, par qui on est financé ou on pourrait soi-disant être financé, on est contre la France, on est anglo-saxon, enfin, tout un tas de clichés. Il y en a des kilomètres, certains commencent à être caduques, et tant mieux. D'autres sont vivaces, d'autres sont aussi des clichés positifs, hein, il n'y a pas que des clichés négatifs. Mm-hmm. Mais effectivement, après, ou sur le sujet lui-même, il va y avoir des clichés.
Ouais.
Donc. Je sais pas, j'ai pas d'exemple là qui me viennent, mais on évoquait la question du nucléaire qui est extrêmement très clivante en France, mais oui, quand on discute avec quelqu'un qui est climato-sceptique,
c'est compliqué. Ok, et ben pour terminer l'épisode, je vais te poser trois questions qui vont nous faire sortir de ton quotidien chez Greenpeace en tant que chargée de campagne océan. Quel autre métier tu aurais aimé faire à part celui-là?
Moi j'aime beaucoup tout ce qui est investigation, je suis un peu geek aussi pour d'un autre côté, donc je dirais le journalisme d'investigation, c'est quelque chose qui aurait effectivement pu vraiment me plaire, par exemple.
Ok, et quel métier tu aurais détesté faire?
Moi j'ai aucune compétence ni tout ce qui est commercial, finance, etc., vendre, se vendre, etc. D'abord, je suis totalement incapable. Je suis extrêmement mauvais à ça. Et c'est tellement loin de ce qui m'intéresse que je n'aurais pas pu, effectivement, faire des métiers de ce type-là.
Ouais. Ouais, et pourtant, tu passes ton temps à convaincre. Donc,
convaincre, ce n'est pas pareil que vendre. Hein.
Oui, je sais. Mais bon, tu vois, ça peut se rapprocher. Et est-ce qu'il y a un métier dont tu connais le nom, mais tu ne comprends pas vraiment ce que c'est et tu ne saurais pas toi-même le définir?
C'est marrant parce que c'est quoi un consultant?
Alors ça, c'est voilà. Une bonne question.
Est-ce que c'est d'ailleurs un métier? Non, je dis ça un peu en souriant parce que d'une certaine manière, ça nous arrive d'avoir en renfort, de manière en freelance, des consultants, des experts à qui on va confier une tâche, etc. Mais globalement, ce terme, il est employé partout. dans la manière dont le gouvernement construit son expertise. On en a pas mal parlé des grosses boîtes de consulting. Dans le monde des ONG, il y a beaucoup de gens qui sont consultants, des gens d'anciens, des anciens des ONG qui suivent, continuent à produire en forme de consultants. C'est un vocabulaire quand même beaucoup dans le monde moderne du travail. Et franchement, tout seul, ça ne veut absolument rien dire.
On est d'accord. Mais pour moi, c'est un peu une... c'est une fonction ou un statut peut-être plutôt... Enfin, je ne sais pas comment on pourrait le définir, mais c'est un peu comme ingénieur ou directeur. Tu ne peux pas être directeur tout seul ou consultant tout seul. Tu es consultant en quelque chose.
C'est vrai.
Voilà, donc pour moi, il y a une expertise qui est accolée, mais je suis d'accord, ce n'est pas simple. Et si les gens se définissent juste en tant que consultant tout seul, je peux comprendre que... On ne sache pas ce qu'ils fassent.
C'est vrai que ce n'est pas forcément un métier. C'est plutôt
ouais.
Un métier plus métier. Non, comme ça, je n'ai pas de...
Ah non, mais c'est très bien voilà. Déjà, consultant. C'est très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, François.
Bah, merci à toi.
Merci pour ton temps. Et puis, bah, écoute, ceux qui sont intéressés, bien sûr, il y a le site de Green... c'est greenpeace.fr.
.fr, ouais.
Pour voilà. Pour suivre toutes les campagnes sur lesquelles tu travailles et les autres. Et j'espère que ça vous aura donné envie. Et puis, à très bientôt.
Merci beaucoup pour votre écoute. L'épisode est terminé. Encore un grand merci à François et aux équipes de Greenpeace France de m'avoir accueilli dans leur bureau pour l'enregistrement. Et j'en profite pour remercier Éléonore pour toute l'organisation. Cet épisode a été enregistré dans le cadre de la semaine du Podcaston qui rassemble des centaines de podcasteurs et de podcastrices en France. Avec beaucoup d'autres, on a choisi de diffuser cette semaine un épisode qui met en avant l'engagement du monde associatif. J'espère que cette plongée dans le quotidien des campagnes de Greenpeace vous a permis de comprendre l'envers du décor, et si vous souhaitez en savoir plus sur les actions de Greenpeace France, rendez-vous sur greenpeace.fr. Continuez à partager les épisodes autour de vous, c'est hyper important pour faire connaître le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau métier. Bye !